musical, entrevues, spectacles et plus. Soyez à l'écoute tous les dimanches à 20h au 88,3 FM ou sur profilprog.com. Profil, c'est 30 ans de découverte musicale.
Amateurs de rock, le samedi soir, c'est à CKIL ça se passe avec l'émission Évasion Rock. Je vous y invite le samedi 21h.
Bonjour, ici Julianne Perrault. Voici votre bulletin du vendredi 24 avril 2026. Le Conseil central de Québec Chaudière-Appalaches de la CSN annonce que les membres du syndicat des travailleuses et travailleurs d'autobus des érables CSN ont adopté à 93% par voie de scrutin secret l'entente de principe intervenue le jour même avec l'employeur. Le vice-président du Conseil central, Pierre Aymon, salue le fait que l'employeur ait accepté de s'attaquer avec le syndicat aux problèmes d'attraction et de rétention de main-d'œuvre qui existent en Beauce, particulièrement dans le secteur du transport scolaire. Pour la CSN, cette entente constitue une avancée dans la bonne direction pour garantir le service aux parents. Avec l'arrivée du printemps, la Ville de Québec lance son grand nettoyage annuel. Au cours des prochaines semaines, plusieurs interventions seront réalisées, dont la réparation des nids de poules, le nettoyage ainsi que le marquage des rues. Au total, plus de 4600 km de chaussées sera nettoyé, soit environ l'équivalent d'une traversée du pays de Québec à Vancouver. Cette année va débuter un projet pilote de marquage avec la peinture à l'époxy à certains endroits sur le territoire. Cette initiative vise à optimiser la durée de vie du marquage et à assurer l'efficacité aux endroits les plus critiques, avec des bénéfices attendus pour la sécurité routière. L'exposition issue de la deuxième phase du projet Pilier débute aujourd'hui à l'espace Sherpa. Cette exposition gratuite met en lumière les œuvres réalisées des personnes en situation d'itinérance ou de désaffiliation sociale, lors d'ateliers dans les locaux de l'organisme communautaire et à la bibliothèque Gabriel Roy. Les artistes participants y signent également des œuvres inspirées de la démarche. Ce projet artistique a été réalisé en collaboration avec la Dauphine, Pêche Sherpa, Clinique Droit de Cité, YMCA de Québec, la Maison de Job, la Maison Revivre et la bibliothèque Gabriel Roy. Une friperie en soutien à la Palestine a lieu dimanche de 11h à 17h dans la salle polyvalente de la coop L'Escalier, située au 920 passage de la Résistance. Vêtements et matériels d'art et craft de seconde main seront au rendez-vous pour ramasser des fonds qui seront versés à deux organismes qui viennent en aide à la population palestinienne, la clinique Al-Mawazi et UNRWA. L'événement est organisé par Queers pour la Palestine et Ainsi Squat-elle. L'éco-centre mobile sera de passage demain dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, plus précisément dans le stationnement du Grand Théâtre de Québec, de 10h à 16h. Pour connaître l'ensemble des matières acceptées, se rendre au ville.quebec.qc.ca/éco-centre-mobile. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et ckiafm.org.
Simplicité. des impostures et des tromperies passent pour de saines vérités, alors que la réalité est fabuleuse. Si les hommes voulaient bien s'intéresser uniquement aux réalités et s'efforcer de ne pas se laisser berner, la vie serait, pour la comparer à des choses que nous connaissons, comme un conte de fées ou des mille et une nuits. Si nous respections uniquement ce qui est inévitable et a le droit d'exister, la musique et la poésie résonneraient dans toutes les rues. Lorsque nous sommes sages et exempts de toute hâte, nous percevons que seules les choses grandes et dignes ont une existence permanente et absolue. Nous percevons que les peurs mesquines et les plaisirs mesquins ne sont que l'ombre de la réalité. C'est toujours enivrant et sublime. En fermant les yeux et en se laissant aller à la somnolence, en consentant à se laisser berner par des spectacles, les hommes établissent et assurent partout leur vie quotidienne faite de routines et d'habitudes, alors même qu'elle n'est bâtie que sur des fondations purement illusoires. Les enfants qui jouent à la vie en discernent les lois véritables mieux que les adultes, qui échouent à la vivre dignement, mais qui se croient plus sages à force d'expérience, autrement dit d'échecs. J'ai lu dans un livre hindou l'histoire du fils d'un roi qui, banni de la cité en sa plus tendre enfance, fut élevé par un bûcheron et qui, arrivant à l'âge adulte en cette condition, s'imaginait appartenir à cette race barbare chez laquelle il vivait. Un des ministres de son père, l'ayant découvert, lui révéla ses véritables origines et l'erreur qui était sienne quant à son caractère se dissipa. Il sut qu'il était prince. Ainsi en va-t-il de l'âme, poursuit le philosophe hindou, qui se leurre sur son vrai caractère à cause des circonstances dans lesquelles elle se trouve, jusqu'à ce que la vérité lui soit révélée par quelque maître vénérable, et elle sait désormais qu'elle est brahmane.
C'est une grande empressé de vous dire ma confiance.
Je remplace monsieur si loin de son foyer.
Vous êtes l'éclat vivant de la providence.
J'aime veiller sur la maison, les enfants et les fleurs. Je serai toujours là, quoi qu'il arrive.
Auprès de moi, je vous sais craintif et rêveur.
L'amitié supporte les absences de l'âme pensive. Il faut écrire, laisser sa trace, écrire l'âme est si vaste. Il faut écrire, choisir la vie, le murmure et le cri. Il faut écrire, laisser sa trace, écrire. À mon égard dans la nuit noire.
Emerson vous appelle l'arpenteur des tempêtes.
Je ne mène pas une vie tranquille de désespoir. Il faut écrire, laisser sa trace, écrire. Il faut écrire le jour, la nuit, ce que choisir la vie, le murmure et le cri.
Mais la force de vos idées nourrit vos 16 ans.
Si je ne suis pas moi, qui le sera?
Bienvenue en toute simplicité. Aujourd'hui, je vais faire une émission sur taureau. Je vous parle beaucoup de taureau, puis je pense que j'ai pas fait vraiment une émission au complet sur taureau. Alors, je vais faire ça aujourd'hui. À partir d'un livre qui vient de paraître chez Flammarion, que je trouve pas mal bien fait, pour ceux qui veulent connaître taureau, c'est comme une biographie qui est facile à lire, abordable, 217 pages. C'est Henri D. Taureau, l'insoumis de Walden, par Henriette Levillain, L-E-V-I-L-L-A-I-N, chez Flammarion. Mais avant ça, j'ai quelques lectures que j'ai faites dans les journaux. Puis aussi, après ma petite revue de presse, on a notre poète invité, Luc Vigneault, qui va nous lire un de ses poèmes. Alors, dans le devoir de justement aujourd'hui, ben c'était cette semaine le jour de la Terre. On n'en a pas beaucoup parlé du jour de la Terre. On dirait que ça a comme passé un peu inaperçu, en tout cas. Alors, c'est un texte de l'éditorialiste du Devoir, Marie-André Chouinard, « Déni de responsabilité ». Il n'y a pas de manière plus délicate de le dire. Plus le monde brûle, plus nos gouvernements détournent le regard. Chaque jour de la Terre qui passe, le constat de l'état de la planète s'est en fièvre. La science ne nous dit plus « attention » du bout des lèvres. Elle clame plutôt « ça y est, nous y voilà », tentant de convaincre les autorités du monde entier de l'urgence d'agir. Mais même si la crise s'intensifie, réponses politiques s'amenuisent et prend la forme d'un formidable déni de responsabilité à l'endroit des générations futures. Les faits ne sont pas des plus rassurants. Même si l'envie est forte de sauter par-dessus les constats alarmants, un bain de lucidité constitue la meilleure prélude à l'action en 2026 pourrait être une nouvelle année de chaleur record dans le monde. Le rapport 2025 du Lancet Countdown conclut que 12 des 20 indicateurs des répercussions du changement climatique sur la santé qu'ils surveillent ont atteint des niveaux records. Ainsi, la mortalité liée attribuable à la chaleur a bondi de 63% depuis les années 1990, faisant en moyenne 546 000 morts par an dans le monde. Il y a aussi dans le Devoir d'aujourd'hui un texte de la chronique de José Blanchette qui nous parle aussi du jour de la Terre. Tiens, c'est comme si le jour de la Terre était passé un peu inaperçu cette année, avec tous les schmilblicks qui n'avancent pas dans le détroit d'Hormoz et les taxes sur l'essence qui s'évaporent d'un coup de pédale sur le gaz. Une lectrice me sollicitait récemment pour parler de l'environnement de façon positive afin d'inspirer les gens. Ah, ma bonne dame, je crains que nous n'ayons dépassé le cap du crémeuse traditionnel. Je peux vous la proposer aux herbes aussi. C'est nouveau sur le menu. J'aurais l'impression de retourner en 2007 lorsque j'animais un show écolo avec le biologiste Jean Lemire. À l'époque, on disait qu'il ne fallait pas effrayer les gens, sinon on ne ferait plus rien. Faut pas prendre les journalistes pour des clowns non plus. C'est une ex-boss à moi qui disait, s'ils veulent rire, qu'ils aillent voir Martin Matt, nous on informe. Alors, elle est plutôt directe, là. Alors, puis elle nous propose des lectures, là, dans ce, dans sa chronique dit au revoir. Alors, c'était dans le devoir d'aujourd'hui, la chronique de José Blanchet. Dans le devoir d'hier, les Canadiens ont une empreinte écologique démesurée. Alexandre Shields, une nouvelle étude scientifique, rappelle que notre mode de vie est nuisible pour la planète. Notre mode de vie implique une consommation insoutenable des ressources de la planète et les Canadiens ont une empreinte écologique tout simplement démesurée, constate une nouvelle étude scientifique publiée mercredi à l'occasion du Jour de la Terre. L'étude, pilotée par des chercheurs de l'Université York et l'Université d'Islande, conclut que notre civilisation utilise les ressources naturelles à un rythme équivalent à 1,7 terres par année, nous plaçant ainsi devant un déficit écologique de 70 %. L'empreinte écologique, calculée par les chercheurs, est une mesure qui permet d'estimer la surface terrestre et maritime nécessaire sur une base annuelle pour satisfaire notre consommation, notamment alimentaire, et générer les déchets qui en découlent, qui découlent de notre mode de vie. À ce chapitre, Éric Miller, professeur en économie écologique et en informatique de la durabilité à l'Université de York et directeur de l'initiative de l'empreinte écologique, souligne que les Canadiens génèrent une empreinte écologique démesurée, donc insoutenable, pour assurer un avenir viable à la planète. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. L'empreinte écologique du Canada limite les chances des populations ailleurs dans le monde de mener une vie de qualité. Là, on peut un peu plus loin, on parle du Québec. Par ailleurs, notre modèle économique linéaire basé sur une surconsommation des ressources transgresse les limites environnementales planétaires, constatant en 2024 un document publié par Recyc Québec et qui invitait à mettre en œuvre différents principes afin de réduire notre empreinte matérielle. Lancée par la Société d'État et produite en collaboration avec l'organisme international Circle Economy, l'étude met l'accent sur le caractère non durable de l'économie québécoise. Même si la province canadienne est renommée pour ses vastes forêts et sa production d'électricité presque entièrement renouvelable, la consommation d'eau et d'autres ressources est exceptionnellement élevée et l'utilisation du vélo reste relativement faible, peut-on y lire. Dans l'ensemble, le Québec est responsable d'une importante empreinte matérielle de 271 millions de tonnes de ressources par année, soit 32 tonnes par habitant, ce qui dépasse largement la moyenne à l'échelle mondiale. Cette réalité découle, selon l'étude, du fait que la province a un niveau de circularité relativement faible, puisqu'à peine 3,5 % de l'économie est considérée comme étant circulaire, donc liée à un système de production de consommation visant à optimiser l'utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de la vie d'un bien ou d'un service. Ça, on va en parler de l'économie. On en a parlé d'ailleurs il y a deux semaines, quand on parlait de la gestion des déchets à Québec. On va en parler aussi dans quelques semaines avec une activité avec la ressourcerie Nos Choses. Il y a moyen d'améliorer facilement, là, d'améliorer notre performance de ce côté-là. Alors ça, c'est un dossier qui va être à suivre, la circularité de l'économie. Il y avait une bonne nouvelle, disons, mercredi, dans le journal Le Devoir toujours, l'électricité source renouvelable en croissance exponentielle. En 2025, les énergies renouvelables ont comblé toute la nouvelle demande en électricité dans le monde selon des données publiées cette semaine. Les contributions des centrales au charbon et au gaz naturel font désormais du surplace, avant un déclin jugé inévitable. Mardi, le groupe de réflexion britannique Amber a publié des données exhaustives au sujet de la génération d'électricité en 2025, marquée par une hausse globale de 2,8 % par rapport à l'année précédente. On y constate que l'énergie solaire a comblé les trois quarts des nouveaux besoins en électricité. Alors, c'est ça. On parle aussi de la Chine là-dedans. C'est ça un peu qui... Peut-être la petite lumière qu'on a au bout du tunnel, c'est qu'on a un virage important, notamment en Chine et en Inde, vers le solaire. Elle dit de manière très remarquable, en 2025, la Chine a réduit de 0,9 % de son recours aux énergies fossiles pour générer de l'électricité et l'Inde de 3,3 %. le pays le plus populeux du monde avec 1,5 milliard d'habitants, a installé plus de panneaux solaires que les États-Unis. En Inde, on prévoit que la croissance annuelle de demande d'électricité se maintiendra à 6 % par année jusqu'en 2035. Et tout indique que les énergies renouvelables, plutôt que le charbon ou le gaz, vont répondre à cette demande. Environ 150 gigawatts de projets éoliens et solaires y sont en développement. Alors ça, c'est dans les bonnes nouvelles. Puis, dernier texte que j'ai retenu, c'était dans le devoir de samedi dernier, un bon devoir de philo. Alors, une fois par mois environ, en tout cas, ou même peut-être aux deux semaines, dans le devoir, on publie un texte de philo, philosophie. Et celui-là, je l'ai trouvé intéressant. C'est « Repenser », on parle d'Ivan Illich, « Repenser l'abondance à la lumière d'Ivan Illich ». Alors, Ivan Illich nous parlait de la convivialité. Il dit « Illich observait que les sociétés industrielles franchissent sans cesse des seuils qu'elles refusent de reconnaître. Dans la convivialité et énergie équité, il montrait comment les outils modernes deviennent destructeurs lorsqu'ils dépassent l'échelle humaine. Pour lui, le seuil est franchi lorsque ce n'est plus l'outil qui sert l'homme, mais l'homme qui est asservi par l'outil. » Alors, on dit convivialité comme horizon. À la menace d'une apocalypse technologique, j'oppose la vision d'une société conviviale. Illich propose alors une autre idée du progrès, opposée à la croissance productivité, la convivialité. Non pas le retour à la pénurie ou l'indigence, mais la recherche d'un équilibre entre liberté individuelle et interdépendance sociale. Ce qui importe à une société conviviale n'est pas la quantité de biens produits par les outils dominants, mais plutôt la qualité des relations qu'elle rend possible par les outils conviviaux. Pour Illich, convivial est la société où l'homme contrôle l'outil et où il a encore la main dessus. Alors, on parle de la pratique du vélo, l'usage de la boîte à livres de quartier, le jardin partagé ou l'atelier de réparation low-tech incarne cette philosophie. Ce sont pour Illich des outils à l'échelle humaine, des outils pris au sens large, qui renforce l'autonomie sans détruire le lien collectif. Il rappelle que l'abondance n'est pas forcément matérielle, elle peut être relationnelle, culturelle, temporelle. Alors ça, c'est un bon texte dans Le Devoir de samedi dernier. Alors, voilà, j'ai fini ma revue de presse. Donc, je passe le micro à notre invité Luc Vigneault qui va nous faire une petite lecture de poème.
Le poème qui suit est dédié respectueusement à un jeune Malien de 10 ans qui habite à Québec, prénommé Prince. Si tu nous entends, celle-ci est pour toi. Prendre sa peur dans ses bras pour mieux la bercer. Faire face à ses frayeurs pour les apprécier. En illuminer son cœur et se libérer du poids des malheurs pour la soif d'exister, de vivre le bonheur pour ensuite y goûter, de sentir ce bonheur pour mieux le savourer, d'éprouver le bonheur d'enfin pouvoir aimer pour que de bonheur on puisse tous se lever, pour qu'après l'on puisse vivre l'éternité de nos couchers du soleil et de nos levers du jour, où ce soleil à plein feu va briller, pour améliorer le sort de l'humanité et pour retravailler notre force d'aimer, pour que nous soyons tous amis du monde entier.
Ferai mon grand cerf-volant, un côté rouge, un côté blanc, un côté tendre. Un jour je ferai mon grand cerf-volant, j'y ferai monter vos 100 000 enfants, ils vont m'entendre. Je les vois venir du soleil levant. Puis j'attellerai les chevaux du vin, un cheval rouge, un cheval blanc, un cheval pire. Puis j'attellerai les chevaux du vin, puis nous irons voir tous les océans, s'ils sont en vie, si les océans sont toujours vivants. Par-dessus les bois, par-dessus les champs, un oiseau rouge, un oiseau blanc, un oiseau lyre. Par-dessus les bois, par-dessus les champs, qui nous mènera chez le mal méchant pour le détruire. Bombe de silence et couteau d'argent. Nous mettrons le mal à feu et à sang, un soleil rouge, un soleil blanc, un soleil sombre. Nous mettrons le mal à feu et à sang, un nuage monte, un autre descend, un jour sans ombre, puis nous raserons la ville en passant. Un côté rouge, un côté blanc, un côté homme. Quand nous reviendrons le cœur triomphant, alors vous direz ce sont nos enfants. Quel est cet homme qui les a menés loin de leurs parents? Je remonterai sur mon cerf-volant, un matin rouge, un matin blanc. Je remonterai sur mon cerf-volant, un matin rouge, un matin blanc, un matin blême. Je remonterai sur mon cerf-volant et vous laisserez vos 100 000 enfants chargés de même pour jeter les dés dans la main du temps, pour jeter les dés dans la main du temps, pour jeter les dés dans la main du temps.
Alors, c'était Fred Pellerin qui nous interprétait la belle chanson de Gilles Vigneault, Le Grand Cerf-Volant. C'est l'album Plus tard qu'on pense de Fred Pellerin. Avant ça, en début d'émission, on avait eu Promenade sur le chemin de Walden de Richard Séguin. Le titre de l'album, Retour à Walden. Et évidemment, je vous ai lu un extrait de Walden, justement, d'Henri David Thoreau, dont je veux vous parler un peu aujourd'hui. Il y a eu plusieurs biographies de Walden, de Thoreau, qui ont été publiées, écrites. La meilleure, c'est Laura Dassow, D-A-S-S-O-W, Walls, W-A-L-L-S, sauf qu'elle est uniquement en anglais. Alors, c'est ceux qui lisent pas en anglais, mais elle n'est pas encore traduite. Il y a une autre bonne biographie de Thoreau, mais elle n'est pas complète. Elle couvre seulement sa période, on peut dire, intellectuelle, qui est de Robert Richardson, R-I-C-H-A-R-D-S-O-N. Et celle-là, elle est traduite en français. Elle est disponible en français. C'est très, très bonne biographie. Il y en a d'autres aussi. Il y a par exemple Thierry Gilibeuf, G-I-L-L-Y-B-O-E-U-F, qui a écrit une assez bonne biographie de Taureau. Elle est évidemment en français, uniquement en français d'ailleurs. Puis aujourd'hui, ben, je vais vous lire des extraits de Henri D. Taureau, L'insoumis de Walden, d'Henriette le vilain. Franchement, c'est très bien fait. Et les autres biographies que je vous proposais, c'est plusieurs centaines de pages, 300-400 pages et plus même. Tandis qu'ici, on a affaire à un texte d'environ 200 pages, donc facilement accessible pour ceux qui veulent s'initier à Taureau. Alors, je vous lis quelques extraits. Rien de si beau, de si pur et en même temps de si vaste qu'un lac ne se trouve à la surface de la terre, au du ciel. Le 6 mai 1862, à l'aube d'une belle journée printanière, Henri David Taureau ferma les yeux. Taureau est décédé en 1862, assez jeune, 40 quelques années. Ferma les yeux qu'il avait gardés grand ouverts sur le monde pendant sa trop courte existence. Il était âgé de 44 ans. Sa mort avait été annoncée, préparée, accompagnée. Miné depuis plus d'une année par une bronchite tenace, il savait qu'elle était le nom aimable donné à la tuberculose, mal incurable à l'époque, qui avait emporté 13 années plus tôt sa sœur aînée Ellen. Sa meilleure amie l'adjurait de se soigner. Peu convaincu par le bienfait d'une cure, il avait obstinément refusé de s'éloigner de Concord, Massachusetts, sa ville natale, de sa maison familiale et surtout de la proximité du lac Walden, sur les rives duquel il avait vécu durant 2 ans et 2 mois dans une cabane construite de ses propres mains. Alors, l'épisode qu'on connaît le plus de la vie de Taureau, c'est quand il est allé s'installer dans une petite cabane qu'il a construit lui-même sur l'étang Walden. Et son œuvre, d'ailleurs, la plus connue, le titre, c'est Walden. Et à l'époque, au début, on avait donné le titre Walden ou La vie dans les bois. Et ça l'a un peu donné une fausse image de Taureau, parce que oui, l'étang Walden, il était boisé autour, mais c'était pas profond dans les bois. Là, il était à 2 kilomètres de Concorde. Et d'ailleurs, parce que le premier édition de Walden, je pense, c'est en 1854. Puis quand on a publié la deuxième édition vers 1861-62, juste avant que Taureau meure, Taureau a demandé qu'on enlève La vie dans les bois, que le titre de son livre, c'est Walden. Mais à cause de la première édition, on le voit encore dans beaucoup de traductions de Walden ou même de reproductions de Walden. On le voit, là, ou La vie dans les bois. D'ailleurs, la traduction que moi j'utilise de aux éditions Gallmeister, qui est pas mal bonne, je trouve. Mais on a quand même cette erreur-là. C'est écrit le titre là, dans la deuxième page, Walden ou La vie dans les bois. Taureau lui-même avait demandé d'enlever ça. Alors, ces deux années-là, c'est l'événement principal, disons, dans la vie de Taureau, à retenir. Mais c'était seulement 2 ans et demi. Taureau a beaucoup écrit avant et après. Et ça, c'est moins connu. Si vous lisez le livre que je vous propose aujourd'hui, vous allez voir là, que c'était sa vie, ça a été beaucoup plus que les 2 années à Walden. Vers la fin de l'automne précédent, accompagné de sa sœur Sophie, entièrement dévouée à lui, il avait parcouru pour la dernière fois les 5 kilomètres qui séparent Concord de Walden. Assis silencieusement sur le pas de la porte de sa cabane, il avait médité sur la brièveté de la vie humaine comparée à la permanence des arbres et des eaux du lac. Sophie avait apporté ses crayons et dessina la maison pour lui faire plaisir. Elle n'oublia ni la cheminée ni les pins blancs qui l'encadraient. Le graphisme est net et précis, un brin enfantin, mais après tout, une cabane dans les bois n'est-elle pas le rêve de tout enfant? Henri avait obtenu que l'une de ses esquisses figurât sur la page titre de la première édition de Walden. Puis on la revoit souvent, là, cette esquisse-là. C'était la sœur d'Henri qui avait dessiné ça à l'époque. Il voulait prendre le temps de mettre ses affaires en ordre. Tout au long de l'hiver, il procéda au classement de ses manuscrits, des milliers de pages d'essais politiques, de conférences, de journaux, de récits autobiographiques, parmi lesquels Walden, réécrit à plusieurs reprises sur une décennie. Alors, ce texte-là a été vraiment peaufiné, réécrit, retravaillé pendant, je pense, une dizaine de fois. Parmi lesquels Walden réécrit à plusieurs reprises sur une décennie est devenu aujourd'hui l'autre nom de Thoreau. Il les empila, les ficela soigneusement et les monta mélancoliquement au grenier. La plume étant devenue trop laborieuse, il n'écrivait plus qu'au crayon, puis il s'arrêta définitivement. Parler est facile, mais écrire ne l'est pas. Dans le mois précédant sa mort, les visites de ses proches devinrent plus fréquentes et les mots de la fin furent enregistrés comme paroles d'évangile. Une de ses tantes, calviniste bien intentionnée, lui demanda s'il s'était réconcilié avec Dieu. Il lui répondit avec un clin d'œil moqueur qu'il ne s'était jamais querellé avec lui. Il préféra la visite des enfants de l'école voisine et leur fit jurer de ne plus jamais voler de nid. Sophie accompagna ses ultimes moments de lucidité en lui lisant des extraits du récit de sa remontée en bateau à voile des rivières Concorde et Merrimack, accompagné de son frère aîné en 1839. John était mort, son frère que Thoreau aimait beaucoup, John était mort tragiquement du tétanos 3 ans après, à 26 ans, dans les bras de Henry. Alors, ce voyage-là, ils ont remonté la rivière Merrimack, ils avaient comme construit un petit genre un mini-voilier. Là. Ça a été le premier livre que Thoreau a publié. Le titre, c'est « A Week on the Concord and Merrimack Rivers », qui a été traduit, qu'on peut trouver en français, qui s'intitule aujourd'hui « 7 jours sur le fleuve ». L'odeur des bouquets de jacinthe et de jonquille qui remplissaient sa chambre lui parvint. Ce monde est magnifique, chuchota-t-il. Bientôt, j'en verrai un autre, encore plus beau. J'ai tellement aimé la nature. En repensant à son coup de cœur, il sut qu'il avait relevé le défi qui s'était lancé 20 ans auparavant. Je suis parti dans les bois parce que je désirais vivre de manière réfléchie, affronter seulement les faits essentiel de la vie, voir si je ne pouvais pas apprendre ce qu'elle avait à m'enseigner et non pas découvrir à l'heure de ma mort que je n'avais pas vécu. Repoussant alors le secours de l'opium, il s'endormit. Il avait fait en sorte de connaître une vie pleine. Il refusait une mort bâclée, préférant celle lucide que Rilke nommerait la grande mort. L'ensemble de la communauté de Concorde se réunit à la première église paroissiale, écoliers compris, à qui un jour de congé avait été accordé. Le glas sonna 44 coups. Ralph Waldo Emerson, qui était un des grands philosophes des États-Unis à l'époque, et c'était le voisin de Thoreau, il se connaissait très bien, il était ami. Alors Ralph Waldo Emerson prit la parole en dernier en tant que mentor du club transcendantaliste. L'ancien pasteur maîtrisait suffisamment son talent oratoire pour ne pas se laisser briser par l'émotion. De 10 ans plus âgé que Thoreau, il avait reporté sur lui l'immense chagrin de la perte de son propre fils. Monsieur Emerson avait perdu son fils là, quelques temps avant aussi. Tantôt, tentant avec solennité le rôle de maître, il avait été le premier à lui apprendre à porter un regard neuf sur les paysages encore rudes et sauvages de la Nouvelle-Angleterre. Tantôt irrité par les incartades de son disciple, il s'était transformé en censeur. Ce n'était toutefois pas l'heure des reproches. Il termina son hommage sur des paroles prophétiques. À l'instant où le pays pleure son fils, il ne sait pas quelle immense perte il a faite. C'est un extrait de l'album Flore Laurentienne. Jean-Michel Blais, si je ne me trompe pas. Mathieu David Gagnon. Fleuve 5. nom de la pièce. Alors, je poursuis avec des extraits du livre Henri de Thoreau, L'insoumis de Walden, d'Henriette Le Vilain. C'est publié, ça vient d'être publié, ça vient d'arriver dans les librairies là, au Québec, L'insoumis de Walden. C'est donc à Walden Pond que la notoriété de Thoreau débuta. Aujourd'hui, une statue en bronze d'un jeune homme précède de quelques pas la cabane, barbu, petit et fluet, sa coche à l'épaule et bonnet sur la tête, chaussé de patoga, les mains grandes ouvertes, il est prêt à bondir en direction du lac pour s'y laver ou y pratiquer des longueurs. Faute de photos en pied de Thoreau, l'artiste s'est appuyé sur les témoignages de ses concitoyens de Concorde, Emerson et Hawthorne. L'un et l'autre le tenaient pour un original, dérangeant parfois. Il restait cependant pantois devant ses dispositions physiques à s'adapter au monde matériel. Henry essaie en vain d'apprendre à son ami Nathaniel comment diriger une embarcation sur la rivière avec une seule pagaie. Avec lui, le bateau se discipline aussi bien qu'un coursier bien dressé. S'étonne l'élève dans son journal. Quant à Emerson, il admire dans son oraison funèbre l'habileté rare chez un cérébral à manier toutes sortes d'outils périlleux. Ce qui les attire et les dérange, ce n'est donc pas son amour de la nature, tout exclusif qu'il est, c'est d'aimer la nature autrement que ses contemporains. Cet amour, en effet, n'est ni sentimental, ni égoïste, ni égotiste, comme celui des romantiques, ni philosophique ou théologique, comme celui des transcendantalistes. C'est un corps à corps dans lequel chacun des sens joue son instrument et trouve sa récompense. Comme le poisson dans l'eau ou l'oiseau sur la branche, Thoreau ne se sent à l'aise que dans son élément, le monde vivant. S'il était enfermé dans une maison, il n'écrivait plus du tout, constatait Emerson. Le sculpteur de Walden a bien relevé le défi de concentrer l'essentiel de la personnalité de Thoreau dans cette légendaire habileté manuelle. Contrastant avec la silhouette menue et le vêtement étriqué, les mains du jeune homme sont disproportionnées, larges, vigoureuses et nerveuses. Mains de pianiste ou de chirurgien, mains d'un artisan qui commença par travailler dans la fabrique de crayons de son père pour ensuite élaguer des arbres, monter une cheminée en briques, travailler la terre où il plantait des haricots et arrachait les mauvaises herbes. En réalité, forçant les traits, l'artiste l'a imaginé à 24 ans dans un corps d'adolescent en pleine croissance, à l'âge où les mains et les pieds se développent plus vite que la taille. Dans son essai « La nature », Emerson avait fait le constat que peu d'adultes savent voir la nature. Le soleil ne fait qu'illuminer le regard, mais il rayonne dans le regard et le cœur de l'enfant. Thoreau, adulte, était cet enfant. Il pouvait charmer un écureuil sauvage pour qu'il vienne nicher dans son manteau. Il pouvait rester assis immobile afin que les animaux viennent jouer autour de lui, écrit délicieusement Virginia Woolf. Tout en prévoyant que le pays pleurerait un jour la perte d'un de ses meilleurs enfants, Emerson ignorait que son indocilité à payer ses taxes locales et son obstination à vivre en sauvage dans les bois seraient à l'origine de sa réputation mondiale actuelle. Il n'était pas loin de les considérer l'une et l'autre comme des outrances puériles. Pour autant, la vie de Thoreau fut aussi modeste et discrète que sa mort. Aucun héroïsme. Il resta insensible à la ruée vers l'ouest et à la conquête de l'art, ne traversa jamais l'Atlantique, à la différence d'Emerson, de Hawthorne ou de Melville. Peu d'aventures extravagantes, sinon des navigations sur des fleuves, de grandes marches aux alentours de Concorde ou dans les forêts du Maine, et la découverte tardive de l'océan Atlantique. Pas plus de romanesque. On ne lui connaît aucune aventure sexuelle, aucune passion féminine ou masculine, pas d'enfant, hormis les longs séjours dans le bercail familial de Concorde et les deux années dans sa cabane. Il a aimé les nuits sous une tente au bord de la rivière, les refuges en haute montagne et marché au minimum 4 heures par jour. l'excursion à 32 ans au Cap Cod aurait été l'aventure la plus perturbante de son existence. Il dut apprendre à y apprivoiser un élément étranger à toutes ses connaissances, proche du monstrueux, l'océan Atlantique. Une fois encore, il se met à l'école de la nature, infiniment plus riche d'enseignements que la société des hommes, à condition qu'il parvienne à la revivre par écrit. Au retour de chaque excursion, il reprenait les notes rédigées en plein air sur un carnet de poche, les documentait, ajoutait des commentaires et références savantes, déviait sur des anecdotes et rêvait, sans tenir compte des avertissements des éditeurs ni de l'actualité des attentes des lecteurs. Il trouvait alors son plaisir à multiplier les approches du monde vivant face à ces 10 000 pages rédigées en moins de 20 ans. Comment ne pas rester déconcerté? C'est comme ça que Thoreau écrivait. Ça commençait par ses randonnées qu'il faisait 4 heures de marche par jour, puis il prenait des notes dans un petit calepin. Il retranscrivait ses notes chez lui, qui étayait un peu. Puis par la suite, il pouvait prendre des extraits de ses journaux, puis les coller ensemble. Il faisait des conférences, il appelait ça des lectures. Puis par après, il pouvait prendre plusieurs de ces conférences-là, puis les réunir ensemble pour faire un essai. Et alors, c'est ça, c'est progressif, mais Thoreau a écrit toute sa vie, beaucoup. Alors, on dit qu'il lisait, il marchait 4 heures par jour, lisait 4 heures, puis écrivait 4 heures par jour. Tantôt, on est saisi par sa surprenante modernité. Tantôt, on le laisse poursuivre tout seul une longue digression et on s'octroie une marche au grand air, selon les critères académiques dont l'esprit français a tant de mal à se débarrasser. La forme littéraire choisie par Thoreau se situe en effet à la frontière de tous les genres. Éditeurs, bibliothécaires et libraires ne savent pas où et comment classer ses volumes. Livre de naturaliste, il recherche avec ténacité l'exactitude des noms, des phénomènes et des comportements. Des comptes rendus de voyage, il respecte les saisons plus que les dates et les itinéraires. Les 2 semaines de la remontée des fleuves avec son frère n'en font qu'une, les 2 années et 2 mois de Walden également. Essais philosophiques, ils ignorent la rigueur abstraite de ceux de son maître Emerson et butinent du côté des sagesses plus pragmatiques de Confucius, des Grecs et des Védas. Témoignages spirituels, ils mettent à l'épreuve le calvinisme punitif des ancêtres venus d'Angleterre et revendiquent, sur le modèle des lettrés chinois, l'usage esthétique de nos sens, la sobriété et la frugalité. Procède la jeune démocratie américaine. Il fustige ses 3 grands défauts, l'efficacité, le désir de réussite et l'obligation de succès. Confession d'un insoumis, ils encouragent enfants et jeunes à refuser la tyrannie des enseignants, des adultes et de la société civile pour devenir les seuls maîtres de leur vie. Poème en prose, enfin, ils scrutent la nature, développent tout l'orchestre de nos sens, nous apprennent à prêter l'oreille aux oiseaux, à l'annonce du printemps, à nous laisser envoûter par la fragrance résineuse des pins blancs ou tout simplement à écouter le silence. Alors, c'était un extrait de l'album Transformation de Bernard Bauzat et la pièce était Mémoire ancestrale. Alors, on va terminer l'émission en vous lisant un dernier petit extrait de texte que je vous présentais aujourd'hui d'Henriette Levillain. L-E-V-I-L-L-I-N, Henri D. Taureau, L'insoumis de Walden chez Flammarion. Le 16 septembre 1847, après avoir passé 2 ans et 2 mois sur la rive de Walden, Taureau quitta sa cabane et n'y retournera plus jamais. Emerson, à qui appartenait le terrain, la loua quelque temps à son jardinier, puis elle tomba à l'abandon. Avant l'installation, avait été préparée. Autant l'installation avait été préparée et expliquée, autant le départ reste énigmatique. Lui-même, 5 ans plus tard, s'interroge dans son journal et répond de la manière la plus allusive. « Je dois avouer que j'ignore pourquoi j'ai quitté le lac. Pour être sincère, j'y suis allé parce que j'étais prêt à y aller. J'en suis parti pour la même raison. » Alors, voilà. L'émission est terminée. Alors, bonne semaine. La semaine prochaine, on va probablement avoir un invité qui va nous parler de James Lovelock, le scientifique qui nous avait réalisé que la Terre est un être vivant. Ça risque d'être fort intéressant. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.
Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
T'écoutes Québec Réveil?
T'aimes ça, donner ton opinion?
Ça donne bien. On veut savoir ce que tu penses de l'émission.
D'ici le 30 avril, rends-toi au ckiafm.org
et clique sur la bannière pour remplir un court sondage.
Parce qu'on veut que Québec Réveil, ce soit ton émission matinale comme tu l'aimes.
Visite ckiafm.org pour les détails.
Coupures budgétaires, mises à pied, réduction de services, travail précaire, insécurité. Comment survivre à l'austérité?
Quel genre de société voulons-nous pour nos enfants, nos personnes âgées, les gens dans le besoin et pour nous-mêmes qui travaillons d'arrache-pied à servir le public? Des solutions existent.
Nous sommes le Syndicat canadien de la fonction publique et nous vous invitons à écouter l'émission D'un autre angle, les vendredis à midi, sur les ondes de CKIA FM 88.3.
Et toi, tu cherches du rock de qualité et pas cher? Dirige-toi tout de suite vers l'Entrepôt du rock, avec des morceaux de qualité comme...